Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Il exerçait le métier de lire, selon son expression. Bernard Pivot s'est éteint à 89 ans. Son nom restera indissociable de l'émission Apostrophe que le journaliste a animée pendant 15 ans sur Antenne 2. Nous y reviendrons avec Maxime Tellier. À Paris, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen pressent Xi Jinping d'user de toute son influence pour que la Russie mette fin à la guerre en Ukraine. Éric Bigala suit la visite du président chinois en France. Jusqu'où un humoriste peut-il aller trop loin? Avec Benoît Grossin, nous évoquerons la suspension de Guillaume Meurice de l'antenne de France Inter et les très nombreuses réactions que cette décision a suscitées. Et puis dans sa chronique Demain l'écho, Annabelle Grelier s'intéresse aux véhicules intermédiaires, une alternative à la voiture électrique individuelle pour nos déplacements du quotidien. L'Académie Goncourt fait part de sa profonde tristesse après l'annonce du décès de Bernard Pivot. Elle salue son insatiable curiosité littéraire et son engagement infaillible au service du monde des lettres. Bernard Pivot, mort ce matin à Neuilly-sur-Seine à 89 ans, était entré à l'Académie Goncourt en 2004. Il en avait été président de 2014 à 2019. Mais c'est avant tout à la télévision, en tant que journaliste et critique littéraire, qu'il a marqué les esprits en animant deux émissions phares consacrées à la littérature et à la culture, Apostrophe puis Bouillon de culture. Très grand lecteur par passion, Bernard Pivot avalait les livres et les romans pour choisir ceux qui méritaient les honneurs. Tout d'abord sur Apostrophe, émission diffusée chaque vendredi soir de 1975 à 1990 sur Antenne 2. Son plateau, Maxime Tellier, était devenu un lieu incontournable de la vie littéraire française.
Apostrophe était bien plus qu'un salon littéraire, c'était un lieu d'influence jamais dépassé depuis. Des sons génériques, concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninov, dont les ventes de disques s'étaient soudainement envolées. On a compté jusqu'à 3 millions de téléspectateurs à une époque où seules 3 chaînes de télévision existaient. Bernard Pivot est à l'aise alors dans cet exercice qui mélange l'ancien, la littérature et le moderne, la télévision. Il y a des moments importants, très sérieux. Le dissident russe Alexandre Solzhenitsyn y présente son livre « L'archipel du Goulag ». Et d'autres moments plus décalés quand l'écrivain américain Charles Bukowski quitte le plateau ivre en 78, insulté par Kavanaugh.
Oh, ok. Ciao. Bah, finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain.
Voilà. Bon. Bukowski, shut up.
Bukowski, je vais te foutre mon poing dans la gueule.
Doucement, Kavanaugh, doucement.
Mais Pivot garde son flegme, toujours sur son plateau. Des rencontres se font, comme entre Jean d'Ormesson et l'artiste Henri Vincenot, qui se découvrent des racines communes.
Mais ça aurait pu être les d'Ormesson.
Là, évidemment, coup de théâtre. Hein.
Coup de théâtre.
Je ne sais pas si vous l'avez préparé.
Quel coup de théâtre?
Charles-Louis. C'est mon cousin Germain.
Eh ben voilà. Eh ben,
quoi
voilà. Vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas.
C'est un traquenard.
Et Apostrophe pouvait multiplier par 10 les ventes des auteurs qui y passaient, y compris d'ouvrages difficiles comme ceux des historiens Brodel ou Leroy Ladurie. Un conseiller de François Mitterrand avait même parlé de dictature sur le marché du livre. De 91 à 2001, Bernard Pivot avait aussi présenté Bouillon de culture sur la même chaîne, mais l'émission n'avait jamais atteint les mêmes audiences.
Et à la fin de Bouillon de culture, Bernard Pivot demandait toujours à ses invités de répondre au questionnaire de Proust. Et lors de la dernière émission, en juin 2001, il avait accepté d'y répondre lui-même. Pour l'interroger, on retrouve l'écrivain Jean d'Ormesson.
Le mot que vous détestez.
Un mauvais sentiment décrit par un mauvais mot. Concupiscence.
Le son, le bruit que vous aimez.
C'est le son très discret des pages que je tourne en lisant un livre, ou le son aussi discret du stylo sur la feuille.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné.
Moi, j'aimerais bien être réincarné dans un cep de la Romanée Conti.
Ah. Je vais boire un coup à votre santé.
Allez-y, buvez un coup.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori.
Oh putain, oh putain, oh putain. Toujours 3 fois.
Enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire?
Hello, Mr. Pivot, how do you do? Pas terrible, I am sorry, my God, but I don't speak English. Ah, mais c'est vrai que vous ne parlez pas anglais. Il parle français, évidemment, Dieu aussi. Ah, c'est vrai que vous ne parlez pas anglais. Eh bien, vous avez toute l'éternité devant vous pour apprendre l'anglais. Et je vais vous donner un très bon professeur. S'il vous plaît, allez me chercher Sir William. Shakespeare, of course.
Bernard Pivot, toujours enjoué, amateur de vin, on l'a entendu. Il était aussi passionné de vélo et de football. Il était tout particulièrement fan de l'AS Saint-Étienne. Ce soir, la ministre de la Culture, Rachida Dati, salue en Bernard Pivot un très grand ambassadeur du livre, un militant de la lecture pour tous. Bonsoir Aurore Richard.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Et les réactions affluent dans le monde littéraire pour rendre hommage à Bernard Pivot.
Et le milieu de l'édition, notamment, est profondément attristé, à l'image de Caroline Gutmann. Au cours de sa carrière dans l'édition, elle est passée par Hachette Littérature, Lattès, Fayard. Elle est désormais directrice de la communication aux éditions du Seuil. Et l'émission Apostrophe de Bernard Pivot a marqué, selon elle, tout le secteur de l'édition.
On savait que si on avait un auteur qui était invité là, bon, c'était pas un succès garanti, mais il y avait de grandes chances pour que le livre décolle dans les librairies. C'est-à-dire que les libraires attendaient cette annonce-là. Et c'est vrai qu'il y avait toute une cérémonie quand on était invité. Pas de cérémonial, parce que c'était pas gainé du tout, mais de générosité, un amour pour les livres, les éditeurs, les auteurs.
Le journaliste Bernard Pivot entre à l'Académie Goncourt en 2004. Il en devient président 10 ans plus tard. Un moment dont se rappelle très bien Didier Decoin, actuellement à la tête du Cénacle littéraire.
Quand il était question d'élire un nouveau président, le nom de Bernard Pivot est arrivé tout de suite. Et certains ont dit, oui, mais attention, c'est pas un écrivain. Et les mêmes ont dit, oui, mais il est plus qu'un écrivain. C'est un livre à lui tout seul. Il connaît la littérature et l'art d'écrire, l'art de lire, l'art de faire lire comme personne. Et s'il y a une place qui est faite pour lui, c'est bien celle de président de la Goncourt.
Bernard Pivot décide de se retirer en 2019 pour retrouver un libre et plein usage de son temps, avait expliqué à l'époque l'Académie Goncourt.
Aurore Richard, une cérémonie grandiose a célébré cet après-midi aux Invalides les 60 années de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Le président chinois Xi Jinping est à présent à l'Élysée pour une réunion bilatérale. Il avait déjà été reçu ce matin par Emmanuel Macron, mais avec Ursula von der Leyen pour discuter des nombreux différends commerciaux qui crispent les relations entre la Chine et l'Union européenne. Le président français et la présidente de la Commission ont aussi insisté auprès de Xi Jinping pour qu'il appelle la Russie à renoncer à l'invasion de l'Ukraine, la Russie qui bénéficie actuellement dans ce conflit d'une aide chinoise, même si elle est indirecte, Éric Biegala.
Oui, la Chine est en effet restée un partenaire de la Russie, partenaire commercial essentiellement, mais à l'heure où la Russie est en passe de réorienter la plupart de sa production et de son économie avec pour objectif principal la guerre qu'elle mène en Ukraine, les partenariats commerciaux qu'elle peut signer avec les uns ou les autres se transforment de fait en OTAN de soutien à ses offensives. Au sortir de la réunion tripartite de ce matin, Ursula von der Leyen a bien précisé les choses.
Nous avons également discuté de l'engagement de la Chine à ne fournir aucun équipement létal à la Russie. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire la livraison à la Russie de composants à double usage qui sont utilisés sur le champ de bataille. Compte tenu de la menace existentielle que représente cette guerre à la fois pour l'Ukraine et pour l'Europe, cela affecte les relations entre l'Union européenne et la Chine.
Si la Chine, jusque-là, respecte parfaitement la promesse faite aux Européens et aux autres de ne pas fournir d'armement à la Russie, elle lui fournit tout de même des composants à double usage qui peuvent parfaitement intégrer des armements. Ce sont par exemple des composants d'électronique qui peuvent équiper des machines à laver, mais aussi des instruments de guidage ou de retardement. Le secrétaire d'État adjoint américain Kurt Campbell, en visite à Paris la semaine dernière, disait qu'il considérait que sans le soutien de la Chine et de ses composants, jamais la Russie n'aurait réussi en quelques mois à remettre en branle toute son industrie de défense.
Éric Biegala, Joe Biden interpelle Benjamin Netanyahou alors qu'Israël a entamé ce matin l'évacuation de civils de Rafah, de l'est vers le nord de la ville. Le président américain redit au chef du gouvernement israélien son opposition à une offensive terrestre à Rafah. L'armée israélienne a annoncé vouloir évacuer au moins 100 000 civils. Rafah, au sud de Gaza, est ciblée par les bombardements, mais c'est la dernière ville de l'enclave palestinienne encore épargnée par des combats au sol. Et depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la population a été multipliée par 4. Thibault Lefèvre, vous avez pu joindre des déplacés qui étaient venus se réfugier à Rafah et qui, à présent, ne savent plus quoi faire.
Des tracts ont été envoyés sur les zones ciblées, mais aussi ce type de message sur les téléphones des habitants concernés. Ordre d'évacuation immédiat, depuis c'est le chaos.
Les gens se préparent pour déplacer. Rafah maintenant commence à s'exploser, quoi. Les gens se préparent pour quitter Rafah.
Youssef est un des 1 200 000 déplacés de Rafah, Pour le moment, il n'a pas reçu l'ordre de partir.
Je me prépare aussi pour trouver un endroit calme pour mes enfants là. Je vais attendre un peu et voir. Ou bien je pars à Al-Mawasi ou bien à Deir el-Balah.
Al-Mawasi, dans le camp de déplacés, au bord de la mer, ou Deir el-Balah, plus au nord. Samira a, elle, décidé de quitter Gaza pour l'Égypte. Elle s'est endettée, mais attend son tour dans l'angoisse d'une fermeture d'un moment à l'autre de la frontière.
J'ai peur. Je suis inscrite, mais jusqu'à maintenant, j'ai peur que les Israéliens ferment le passage de Rafah. Toute la situation a changé.
Alors Samira veut croire que les belligérants ont encore le pouvoir d'éviter de nouveaux combats.
On espère et on souhaite et on prie au Dieu que le Hamas accepte la trêve.
Des discussions sont en cours au Qatar pour tenter de sauver des négociations toujours dans l'impasse.
Thibault Lefèvre depuis Jérusalem. La guerre à Gaza n'y est pas étrangère. Le nombre d'actes antisémites recensés en France a presque quadruplé l'an dernier, avec 1676 actes recensés par le ministère de l'Intérieur. Face à l'ampleur du phénomène, le gouvernement appelle à un sursaut collectif et lance les assises de lutte contre l'antisémitisme. La ministre en charge de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, les a inaugurées avec une première table ronde réunissant représentants des cultes et associations antiracistes. Bonsoir Julie Paco.
Bonsoir Aurélie.
Et cette réunion a commencé par un constat, l'antisémitisme progresse chez les jeunes.
Oui, d'après une enquête réalisée par l'IFOP pour l'antenne française de l'American Jewish Committee, 35% des 18-24 ans estiment qu'il est normal de s'en prendre à des juifs en raison de leur soutien à Israël, contre 21% de la population générale. On assisterait donc à un rajeunissement des auteurs, mais aussi des victimes, dont certaines ont témoigné à travers des vidéos.
La personne qui m'a embêté a commencé à me faire quelques blagues. Au fil du temps, c'est devenu des insultes comme « sale juif » ou « retourne dans tes camps ». Je me suis rendu compte vraiment de la gravité des faits quand il m'a fait « salut nazi ».
Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France constate ainsi une acceptabilité sociale de l'antisémitisme beaucoup plus grande qu'avant, d'où l'importance de la société civile et des associations pour initier ce sursaut collectif, souligne Dominique Sopo, le président de SOS Racisme.
Quand bien même on serait dans des organisations qui ne sont pas spécialement intéressées par la question de la lutte contre l'antisémitisme, parce qu'on serait davantage sur la lutte contre le racisme anti-noir ou anti-arabe, eh bien il faut toujours se souvenir que lorsque l'on réclame pour soi d'être traité à égale dignité, ce que l'on veut pour soi, on le veut pour les autres.
Et tous autour de la table insistent sur le rôle de l'école à travers notamment la prévention de l'antisémitisme dès le plus jeune âge. Aurore Berger prend note et évoque un renforcement de la formation des enseignants.
Évidemment qu'au cœur de l'école, il y a nos enseignants. Et que justement, si on ne veut pas que toute la charge repose sur eux, il faut que toute la société se sente concernée par ce que veut dire l'antisémitisme et par les conséquences de l'antisémitisme. Et il faut surtout que systématiquement, nos enseignants se sentent soutenus, accompagnés, épaulés, renforcés.
Mais il faudra attendre fin juin pour les propositions concrètes lors d'une deuxième session de ces assises à laquelle seront conviés les parlementaires.
Julie Paco. Fin octobre, il avait tenu des propos polémiques sur Benjamin Netanyahou. Six mois plus tard, dans l'émission Le Grand Dimanche Soir sur France Inter, il les a réitérés, ce qui lui vaut d'être mis à pied par Radio France. L'humoriste Guillaume Meurice est privé d'antenne depuis le 2 mai et sous la menace d'un licenciement pour faute grave. Bonsoir Benoît Grossin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
Jusqu'où peut aller la liberté d'expression et de caricature dans le service public? La question est de nouveau posée, Benoît.
Après le classement sans suite d'une plainte l'accusant d'antisémitisme, Guillaume Meurice avait déclaré sur France Inter...
Il y a des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon, le procureur il a dit c'est bon. C'est ma première blague autorisée par la loi française. Excusez-moi, je fête ça avec vous.
Et alors que cette nouvelle sortie de Guillaume Meurice est jugée inacceptable par la direction de Radio France, les sociétés des journalistes et des producteurs de France Inter s'insurgent contre sa suspension de l'antenne et deux pétitions en ligne pour la défense de la liberté d'expression ont déjà recueilli plus de 130 000 signatures. L'émission Le Grand Dimanche Soir hier lui a été dédiée par l'animatrice Charline Vanhoenacker en signe de solidarité. Un humoriste, Jamil Lechlag, est même allé jusqu'à annoncer son départ de la station.
J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. Une Jospinade, comme on dit dans le milieu. J'en tire les conclusions en me retirant du service public.
Et cette affaire, Benoît, n'est pas une première à France Inter.
Stéphane Guillon et Didier Porte, en 2010, ont été remerciés avant d'obtenir gain de cause au prud'homme pour des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Les humoristes bénéficient désormais d'une très forte protection, selon maître Christophe Bigot, avocat spécialiste du droit des médias.
C'est une protection confirmée dans les années 90, en France, puis dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et qui a véritablement été assurée et renforcée en 2019, s'agissant d'une image qui montrait Marine Le Pen sous forme d'un étron. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que même l'atteinte à la dignité de la personne n'était pas de nature à constituer une limite admissible de la liberté d'expression d'un humoriste.
Guillaume Meurice devrait être fixé sur son sort le 16 mai, date de son entretien disciplinaire à Radio France.
Merci Benoît Grossin. 800 000 ventes de voitures électriques dès 2027, c'est l'objectif que se sont fixés le gouvernement et l'industrie automobile. Un objectif ambitieux puisque cela signifie multiplier les ventes par 3 en 4 ans. Or, on sait que le prix est un obstacle majeur. Dans la chronique Demain à l'écho, ce lundi, coup de projecteur donc sur le véhicule intermédiaire. À mi-chemin entre vélo et voiture, ces engins de mobilité douce sont beaucoup moins émissifs, évidemment moins chers, et il faut beaucoup moins de ressources pour les produire. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, soutient une dizaine de projets en France. Parmi eux, celui de l'entreprise à mission Midipil, installée à Hiersac en Charente, où s'est rendue Annabelle Grelier.
Remplacer la voiture à moteur thermique par la voiture électrique, Benoît Trouvé, ancien ingénieur de PSA et fondateur de Midipil, n'y croit pas une seconde.
Ah, je n'y crois pas du tout. C'est une chimère, c'est juste pour maintenir un système. En gros, on vous propose un véhicule électrique pour continuer le modèle de l'automobile tel qu'on connaît. On remplace le moteur thermique par le moteur électrique et hop, tour de magie, on a fait le job. Ouais, mais sauf que ça a des impacts et des externalités négatives qu'on ne traite pas. Et aujourd'hui, la question n'est pas que de décarboner. On a des enjeux de ressources, on a des enjeux d'énergie, on a des enjeux sociaux. Et donc, vous ne pouvez pas continuer dans la voie de gros véhicules électriques. Ça ne fonctionne pas et on va se prendre très, très rapidement un electric gate. Il n'est pas loin, là.
Pour le jeune chef d'entreprise, il est impératif d'adapter nos modes de transport à nos usages. Si les Français aiment la bagnole, ils devraient miser sur des voitures individuelles. Plus légères, plus sobres et beaucoup moins chères pour leurs déplacements quotidiens. Avec une poignée d'anciens collègues ingénieurs automobiles, Benoît Trouvé planche depuis 2020 sur un véhicule dit intermédiaire entre le vélo et la voiture.
Voilà le prototype 9h23, il s'appelle celui-là. On reconnaît un petit peu les codes de la voiture, hein. On a les quatre roues, la carrosserie, on va avoir tous les éléments de sécurité qu'on retrouve, les rétros, les feux, les clignotants. Quand on regarde le poste de pilotage, là on reconnaît plutôt des éléments du vélo, voire du vélo couché. On voit des pédales, on a un pédalier. Et notre direction, ce sont des manettes sur lesquelles on retrouve quelques organes du monde de la moto. Donc c'est vrai que de l'extérieur, c'est vraiment un hybride entre une voiture et un vélo.
Faut pédaler, c'est un véhicule à pédales.
Voilà, alors là je m'installe, tac, on tourne les jambes pour générer de l'électricité, voilà. Et après, on conduit comme ça, là on voit la direction à droite à gauche. Donc ça s'utilise comme un vélo. Vous tournez les jambes, il avance, vous arrêtez les jambes, vous êtes en roue libre. Vous tournez en rétropédalage, vous allez en marche arrière. Voilà, vous avez un véhicule qui se pilote avec les jambes, mais la magie du concept, c'est que vous avez une batterie un peu balèze, qui fait que quand les jambes ne suffisent plus, bah, la batterie prend le relais, et vous avez une sorte de super motorisation qui vous permet d'emmener de la charge en vitesse et en pente.
Capable de transporter jusqu'à 300 kg de charge, l'engin est particulièrement adapté pour livrer des marchandises ou transporter du matériel.
C'est quand même mieux qu'une voiture à pédales.
C'est pas une voiture à pédales telle qu'on l'imagine. Ça n'a rien à voir avec la Rosalie ou la voiture d'enfant. Je pense qu'on a une sorte de crédibilité. C'est-à-dire qu'on s'adresse, nous, à des professionnels. On s'est projeté dans un univers qui, tous les jours, a besoin de livrer des centaines de kilos sur des dizaines de kilomètres. Notre véhicule y répond à ce qu'il y a des charges.
3 mètres de long, 90 cm de large et 1,60 m de haut, le véhicule roule à 45 km/h avec une autonomie de 100 km. En cours d'homologation, les premiers véhicules qui seront construits sur la chaîne pilote de Midipil ont déjà trouvé une quarantaine de clients. Des hôpitaux, des aéroports ou encore des artisans. Et ce n'est qu'un début pour Benoît Trouvé.
On lève des fonds, on a des clients, on a des partenaires industriels, donc on va le faire en fait. On est financé pour les deux prochaines années qui viennent, on va homologuer, c'est parti.
10 fois moins d'émissions carbone qu'une camionnette diesel, 5 fois moins qu'une camionnette électrique. Les véhicules intermédiaires de Midipile ont reçu le soutien de l'ADEME qui, à travers le programme Extrême Défi Mobilité, accompagne le prototypage et l'industrialisation d'une dizaine de projets en France. Ces véhicules d'un nouveau genre, on devrait en voir de plus en plus sur les routes. Une vingtaine de collectivités locales se sont engagées à aménager des infrastructures pour faciliter leur circulation.
Demain, l'écho, une chronique d'Annabelle Grelier à lire ou à écouter sur le site de France Culture. Le ciel sera très nuageux demain matin sur le nord-ouest et le nord avant l'apparition de belles éclaircies. Il pleuvra souvent à l'est et au sud de la Loire, mais il fera relativement beau dans la région méditerranéenne. Les températures minimales iront de 6 à 13 degrés, les maximales de 17 à 22. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.